Ma prédication ce matin, notre réflexion, elle sera précisément sur la notion de s'approcher de Dieu, que je prendrai dans le psaume 73 et le verset 28. En tout début d'année, certains ont reçu des petits fascicules, des petits papiers, des petits signets avec ce psaume « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Ainsi, en fait, une organisation d'église avait proposé que ça soit le thème de l'année, le mot d'ordre de l'année. Et c'est quelque part ce mot d'ordre que j'ai repris et sur lequel je voudrais que aujourd'hui nous puissions réfléchir. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu afin de raconter toutes ses œuvres. C'est la traduction de la Nouvelle Bible Second. Je ne sais pas si tout le monde arrive à le lire, mais simplement, du psaume 79, j'aimerais quand même pouvoir relire tout ce psaume. Alors, il est à l'écran, dans la Bible en français courant, que je n'utiliserai plus par la suite. Psaume appartenant au recueil d'Asaph. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu, j'ai vu que tout leur réussit. J'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ne me regardez pas, regardez le texte biblique. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut, on voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent. Ils parlent méchamment, d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel et leur langue n'épargne rien sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent « Dieu ne peut rien remarquer. Comment peut-il savoir celui qui est là-haut » Regardez-les, ces gens sans foi ni loi. Toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Mais si je me décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre. Mais tout cela m'a paru trop difficile jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. En effet, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah ! Comme en peu de temps, ils sont réduits à rien. Fini, anéanti par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme leur image, leur rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais stupide. Je n'y comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, tu me recevras avec les honneurs au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi. Et qu'ici-bas, que désirer, puisque je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent, mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Parole du Seigneur. Amen. Le dernier verset, le verset 28, c'est le verset qui est celui de notre méditation. Celui que j'ai lu en français courant, mais moi, mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. La Bible à la Colombe traduira cela autrement. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. La Nouvelle Bible Seconde dit, « Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. » Asaph. Asaph est l'un des de ceux qui ont écrit 11 poèmes, 11 psaumes, dans le recueil des 150 que nous avons dans notre Bible. Asaph est un homme de la louange. C'est pour ça qu'il dit qu'il entre dans le sanctuaire. Mais Asaph dit que, à certains moments, il a failli tomber. Il a failli choir. Pourquoi? Parce qu'il a regardé autour de lui. Et il a regardé ceux et celles qui, sans foi ni loi, vivent bien. Oh, il n'y a pas qu'Asaph qui a fait cette remarque. N'est-ce pas? Vous la retrouvez dans le livre de Job, vous la retrouvez dans le livre de Coëlette, vous la retrouvez dans le livre des psaumes. Combien de fois est-ce que l'écrivain biblique est étonné de ce que lui vit des difficultés, des problèmes, et que les autres semble ne pas avoir de problème. Qui n'a pas fait cette démarche? Qui, un jour, n'a quand même pas fait de comparaison en disant, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et encore, sommes-nous dans une situation qui, quelque part, est une situation qui est privilégiée. Mais pensez à tous ceux qui, aujourd'hui, sont au sein de la tourmente. Je pense Je pense à mes frères de Madagascar. Mais je pense aussi à ceux du Kivu. Je pense à ceux de Syrie. Je pense à tous ceux qui, aujourd'hui, se posent des questions. Pourquoi à nous, alors que les autres vont bien? Asaph a été pris à un moment donné de sa vie de cette envie aussi de suivre ce chemin. Il a failli tomber, dit-il, dans ce piège. Et puis, il s'est rattrapé. Et j'ai souligné dans le texte de la Nouvelle Bible Second, « Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, j'ai choisi, dit-il, pour abri le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. » Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, j'ai choisi. Sinon que, à un moment donné dans ma vie, il y a un choix à opérer. Il y a une décision qui nous appartient, qui n'appartient pas aux autres. Nous ne pouvons pas être de ceux qui sont toujours en train de boiter à gauche et boiter à droite, dit Élie. Clocher des deux pieds. Jusque à quand, c'est le cri de Dieu, marches-tu d'un côté et marches-tu de l'autre? Nous avons une décision à prendre. La décision de Élie a été de suivre la volonté de Dieu. Mais à certains moments, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout évident de se retrouver dans cette situation. On est pris dans nos pensées, on est pris dans nos émotions, on est pris dans nos sentiments. Et bien souvent, nous nous laissons gagner par nos sentiments. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir la foi? Ça sert à quoi de persévérer? Ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi d'avoir une communion fraternelle? Ça sert à quoi? Les autres vivent mieux que moi. Ou en tout cas, Asaph semble mieux vivre. Mais ils vivent bien jusqu'à un certain moment. Il y a une décision à prendre. On est d'un côté ou on est de l'autre. Et Asaph prend la décision et il dit, cela dépend de moi, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Malcolm Gladwell, qui est en fait un contemporain, c'est un journaliste et un écrivain anglais qui s'est expatrié et qui est aux États-Unis maintenant, a écrit ceci. La clé pour prendre de bonnes décisions n'est pas d'acquérir davantage de connaissances, mais d'apprendre à comprendre. Nous sommes submergés par un océan de savoir, mais nous manquons cruellement de compréhension. Lorsque nous nous laissons saisir par nos sentiments, par nos émotions, nous sommes conduits par des choses qui parfois nous dépassent, mais il faut prendre le temps. Et il faut prendre le temps d'arrêter les sentiments, d'arrêter les émotions, de se replacer devant Dieu et de prendre une décision et de comprendre dès lors le choix que nous allons faire et pourquoi on fait ce choix. M'approcher de Dieu, kivat en hébreu, ça veut dire, c'est pas tant le fait d'aller vers que le fait d'être proche. On est proche de lui. Alors, quand on dit approchons-nous du Seigneur, c'est comme si, en fin de compte, il nous appartenait quelque part de faire une démarche pour nous avancer. Alors, moi, j'aime beaucoup aimé ce chant de ce matin qui reprenait Philippiens 2. En fait, c'est Dieu qui a fait chemin vers nous. C'est lui qui s'est approché de nous. C'est lui qui a quitté son ciel. C'est lui qui est venu au devant de nous en Jésus. Et donc, en fait, il ne m'appartient pas à moi d'essayer de m'approcher de Dieu, mais il m'appartient, et c'est ma décision, d'être proche de lui. D'être tout proche de lui et de rester dans son voisinage. Ce mot, le mot que utilise Asaph, kivad, ne va être utilisé que deux fois dans tout l'Ancien Testament. Et la deuxième fois, c'est dans un passage d'Ésaïe 58 au verset 2. Mais nous reviendrons sur Ésaïe 58. La seule chose, c'est que dans l'expression « m'approcher de Dieu », je voudrais que nous prenions encore un temps d'arrêt pour nous poser la question « c'est qui Dieu ?» C'est qui Dieu ? M'approcher, être dans le voisinage de Dieu, cela veut dire quoi ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Si je regarde bien, le texte de Asaph dans le texte hébreu, en fait, il utilise le mot Elohim, qui est traduit en français par Dieu. Et je voudrais tout simplement introduire cette dimension pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit. Qui est celui que le psalmiste appelle Elohim? Un voisin de vous, un de vos voisins que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un professeur à Louvain-la-Neuve, André Ouénin, chargé, il a la chaire d'Ancien Testament à Louvain-la-Neuve, et c'est un homme qui aujourd'hui, au plan de l'exégèse, on ne peut plus faire autrement que de le visiter et de voir ce qu'il a écrit. Et André Ouénin écrit ceci dans un de ses commentaires par rapport à Genèse chapitre 1, verset 1, lorsqu'il analyse ce premier verset au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait. André Wénin dit ceci, Bereshit bara Elohim, Elohim, c'est le Dieu qui a la puissance de créer les choses. Mais celui qui a la puissance de créer, dit Wénin, a la puissance de détruire. Le Dieu qui se manifeste en Elohim est celui qui, non seulement est le Créateur, mais qui peut aussi détruire ce qu'il a créé. Alors, il faudrait rentrer dans une dimension où Wénin dit, mais justement et précisément, il y a l'Esprit Saint qui se meut au-dessus des eaux, et c'est la puissance que Dieu place afin de ne pas détruire ce qu'il a créé. On entrera peut-être un jour dans cette réflexion à un autre moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour Asaph, s'approcher de Dieu, c'est de quel Dieu ? C'est de ce Dieu qui a la capacité de créer, mais qui a la capacité aussi de détruire. C'est facile de dire, Père, je vais me jeter dans tes bras d'amour. Faut-il encore que Dieu ait des bras d'amour ? Je ne sais pas, hein. C'est de l'anthropomorphisme, je ne sais pas. Nous préférons cette image à l'autre. Nous faisons des choix dans notre façon de voir Dieu. Et nous ne sommes pas toujours très heureux d'avoir un Dieu qui est ce Dieu du jugement et celui de la destruction de la terre. Il nous fait peur. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que Asaph, lui, s'approche de celui-là sans problème. Nous devrions aussi pouvoir, nous, à la suite d'Asaph, pouvoir nous approcher de lui sans problème. Pas obligatoirement recourir tout de suite à un Dieu d'amour. Dieu est aussi amour. Mais n'oubliez jamais que Dieu est le Dieu aussi du jugement. Elohim. Et cela, dit Asaph, c'est mon bien. Comment vous dites-vous bien en hébreu ? Allez-vous. Je suis sûr qu'il fut un temps, il y a une génération d'ici, tout le monde le disait sans problème et sans acétof. Acétof. Bon, acétof. Donc c'est mon bien, acétof. Voilà. Tof. C'est bien, c'est bon. C'est facile à retenir, hein. Vous aurez au moins retenu quelque chose aujourd'hui, hein, d'accord. C'est ce qui rythme le texte de la Genèse. Et Dieu trouva que cela était bien, c'était tof, très bien. Mais il en arrive même à dire, à un moment donné, c'est très bien. Et chaque fois que Dieu dit que c'est bien, il dit quoi ? il dit une bénédiction sur ce qu'il a créé. Et donc, dans la tête d'Azaph, s'approcher de ce Dieu-là, c'est entrer dans la bénédiction. M'approcher de Dieu, c'est une bénédiction pour moi. C'est extraordinaire. Au psaume 52, verset 11 dit, « Je veux espérer en ton nom parce que tu es bon envers les fidèles. » Alors, les fidèles, c'est encore un nom que vous allez retenir assez facilement en hébreu. Vous allez apprendre deux noms aujourd'hui. Les fidèles, ce sont des tzadiks. Je n'ai pas dit des sadiks, hein. N'oubliez pas le T avant, hein. Le tzadik. Le tzadik, c'est celui qui bénéficie de la justice, c'est-à-dire la tzedaka de Dieu. C'est celui qui est environné de cette justice. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Car en fin de compte, le fidèle est celui qui est au bénéfice de la justice de Dieu, mais c'est celui aussi qui va devoir accomplir ce qui est de la justice. Et me refla avec mon retour en arrière sur Ésaïe 58, verset 1. Lorsque le Dieu dit au prophète, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompe, dis à mon peuple sa transgression à la maison de Jacob, ses péchés. Jour après jour, il me cherche, il me désire, il désire connaître mes voies comme une nation qui aurait agi selon la justice et qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il me demande des jugements justes, il désire s'approcher de Dieu. Et là, je continue le verset 3 et vous pouvez continuer la lecture chez vous. C'est le peuple qui dit, pourquoi jeûnons-nous? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je reçois au travers de ce texte? M'approcher de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et ici, dans ce Ésaïe 58, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, le peuple recherche la proximité de Dieu en quoi faisant? En quoi faisant? Dites-moi. C'est marqué en dessous, hein? En jeûnant. Donc ils ont une démarche très spirituelle. Et bien souvent, nous prenons des démarches très spirituelles. Nous croyons qu'au travers d'une démarche très spirituelle, nous allons pouvoir mettre Dieu de notre côté. Avec nous, le mettre dans notre poche. Et Dieu dit, t'as beau essayer de t'approcher de moi, commence par te laver les mains. Tes démarches spirituelles ne sont pas prises en compte si ta façon de vivre n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, si nous continuons à lire le psaume Ésaïe 58, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le fait que il veulent s'approcher de Dieu. Mais ils ont un problème. C'est qu'en fait, compte, ils n'accomplissent pas la justice. Ils vivent n'importe comment. Ils vivent le n'importe quoi. Il y a aussi ce que la Bible appelle la justice sociale. Frères et sœurs, trop souvent, dans notre façon de concevoir la relation à Dieu, nous concevons notre relation à Dieu comme étant quelque chose de superficiel. Allez, je vais retourner un petit coup à Madagascar pour Yvette. Le dimanche, et je suis pas persuadé qu'au Congo c'est exactement la même chose, le dimanche, je ne sortirai pas de chez moi n'importe comment, habillé avec n'importe quel habit, et je ne porterai certainement pas des jeans troués. Je vais mettre mon plus bel habit parce que c'est dimanche, parce que je vais me présenter devant Dieu. Et je me souviens encore de cette cérémonie où je participais aux 20 ans d'un culte de reconnaissance du pasteur synodal de Majenga, où il m'avait invité. Tous les autres pasteurs étaient là, puis les diacres, les anciens. Oh là là, c'était... Le temple était bourré. Alors, je faisais tâche. Non pas parce que j'étais blanc parmi tous ceux qui ne l'étaient pas, mais tout simplement parce que j'étais le seul, je regarde ma femme, j'étais le seul à avoir des sandalettes. Inconcevable. On a des chaussures fermées. J'étais le seul à être en sandalettes, en sandales. Ah, c'est pas possible. Moi, je dis, et je reçois de mes frères malgaches, c'est un fait que trop souvent, nous venons au culte n'importe comment. Et je me souviens encore de ce culte dans une assemblée évangélique en France, où celui qui présidait la Sainte Cène a fait en sorte que je n'ai jamais pris la Sainte Cène. J'étais en pétard contre lui, donc je n'étais pas en ordre avec Dieu, et j'avais un problème. Car en fait, quand il était derrière la table de Sainte Cène, c'était un des anciens de l'Église, il était en short et en sandales. Moi, je ne pouvais pas. Je ne peux pas concevoir cela. Mes frères et sœurs, d'un autre côté, je me remets en question aussi sur l'apparence. Nous soignons l'apparence bien souvent, mais qu'en est-il de notre cœur? Qu'en est-il de l'intérieur? Est-ce que, quelque part, on peut avoir cette démarche aussi, d'une certaine manière, de se mettre son bel habit, de se présenter de toute façon, de très façon très correcte, mais avec un intérieur qui ne l'est pas. Comment nous approchons-nous de Dieu? Et je terminerai simplement ceci. Ma réflexion de ce matin, en reprenant Hébreux, chapitre 10, verset 22. Lorsque l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, l'auteur nous dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Arrêtons-nous à ce verset 22 d'abord. Nous sommes invités à ce que, dans la rencontre avec Dieu, nous ayons un cœur sincère. C'est quoi un cœur sincère ? Sincere. Sincère vient du latin, sincere, qui veut dire sans défaut. Car en fait compte, lorsque l'on vendait une pierre, on pouvait très bien dans la Rome ancienne, on y mettait de la cire afin de masquer la fissure. C'est après que vous découvriez que, en fait compte, on vous avait roulé, que vous étiez flousé. Sincère, ça veut dire, en fait, il n'y a pas de défaut. Un cœur, précisément, qui n'est pas un cœur double, quelqu'un qui ne marche pas des deux côtés, quelque chose qui est sincère. Avec une pleine foi, ça ne veut pas dire une foi qui dépasse celle du pasteur Moula. Mais ça veut dire, mais non, parce qu'il faut déjà monter haut, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Mais simplement, une foi qui est en Jésus. Jésus, lui qui a été donné pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est lui qui a payé le prix. C'est sa vie qui a été donnée. Son sacrifice est entier et une fois pour toutes, il n'y a plus besoin de recommencer cela. Jésus s'est donné, il faut pouvoir l'accepter, y adhérer. Le cœur, dès lors, purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dieu nous purifie. Dieu nous lave. Notre conscience est lavée. Mes péchés sont pardonnés. Et comme disait un des serviteurs qui vient d'entrer dans la gloire de Dieu, et je pense à Samuel Liberec, Samuel disait « Dieu pardonne vos péchés, il efface ce qui a été inscrit sur l'ardoise ». Ça, c'est le pardon de Dieu. Mais quand l'ardoise est effacée, il ne se contente pas seulement à ce que l'ardoise soit effacée. Il vous fait grâce de la vie éternelle. Et il ne faut pas confondre le pardon et la grâce, disait Samuel. Et cela m'a beaucoup marqué dans les préparations aux campagnes de Billy Graham. Il y a le pardon de Dieu, mais alors, après qu'il vous ait purifié, Il vous donne par grâce la vie en Jésus et il vous la communique par le Saint-Esprit. Continuons à reconnaître publiquement, à proclamer notre espérance. Oui, elle est là. Malgré tout ce que tu dis, malgré tout ce que tu penses, moi je crois. Et je crois que Dieu a des projets de paix, de bonheur, de shalom pour moi. Et je crois qu'il y a un avenir pour moi. Et je crois en la vie éternelle. Est-ce que tu y crois aussi en la vie éternelle? Oui ou non? Eh bien, nous avons à le proclamer encore dans ce monde. Et à proclamer sans fléchir, car celui qui a fait la promesse, et cela nous a été redit au moment de la Sainte Cène, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Quand je dis Amen, je dis oui, c'est sûr. C'est assuré. Ce que Dieu dit, il a la capacité de le faire et il le fera. Alors veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes ou aux belles œuvres. Frères et sœurs, s'approcher de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il faut d'abord passer par la croix, accueillir la grâce qui nous est faite, vivre de l'Esprit, pour entrer dans la pleine reconnaissance, dans la pleine communion avec notre Dieu. Nous pouvons être dans son voisinage sans crainte. Les démons craignent. Ça, c'est l'épître de Jacques qui le dit. Moi, je suis dans le respect. Je n'ai pas peur de Dieu. Mais je sais qui est Dieu. Et je sais qu'il a la capacité de créer et de détruire. Je crois qu'un jour, effectivement, tout ce monde s'en ira et fera place à un autre temps. En attendant ce temps, aujourd'hui, je marche avec assurance. Je veille sur ma vie, pas seulement sur ma sanctification, mais je veille sur ma façon de vivre. Pour vivre selon la justice, et notamment la justice sociale. Je crois en un Dieu qui accomplira tout pleinement, comme il l'a dit. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, nous sommes comme ces arbres. Nous voulons porter du fruit et du fruit à ta gloire. Seigneur, nous développons nos racines. Nous voulons avoir une compréhension toujours de plus en plus grande du mystère de ton amour, de la grandeur de ta personne. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui tu nous permets, au travers du voile déchiré, de pouvoir entrer dans ta présence. C'est toi qui t'es approché de nous, c'est toi qui es devenu notre voisin, c'est toi, Seigneur, qui es là, prompt à nous toucher. Seigneur, que nous puissions avoir encore, toujours, cette dimension de ta grandeur et du respect que l'on te doit, mais aussi que nous puissions avoir toujours cette assurance d'être avec toi. Montre-nous, Seigneur, lorsque nos vies dévient. Ne nous laisse pas tomber dans l'émotion, dans les sentiments, mais que ça soit ta parole qui est la vérité qui nous conduise à une compréhension toujours plus grande et que l'Esprit Saint puisse vraiment nous faire entrer dans cette dimension de connaissance. Père, je veux te recommander mes frères, mes sœurs, te recommander cette assemblée, les anciens, les diacres, le conseil pastoral, je te veux te demander, Seigneur, qu'il soit comme un phare, ici encore à Haut-Tigny, qu'il puisse briller, Seigneur, alors que d'autres sont aujourd'hui dans cette dimension de « mangeons et buvons, demain nous mourrons », que l'espérance qui est en toi, Seigneur, soit communiquée. Éveille leur zèle, Seigneur, au témoignage. Éveille leur zèle à l'évangélisation. Seigneur, que nous ne restions pas simplement de ceux qui, comme une impasse qui se termine par un cul-de-sac, nous vivions de la grâce que tu nous as faite pour simplement nous en complaire et ne jamais la transmettre à qui que ce soit d'autre. Mais que nous soyons des canaux et que ton Église, Seigneur, ici encore, soit ce canal dont tu te sers pour te glorifier. Bénis les frères, bénis les sœurs, Seigneur, bénis les petits comme les grands, les aînés comme les plus jeunes. Nous te prions vraiment que ton œuvre se fasse avec en plénitude. C'est notre prière en Jésus. Amen.